Pascal Turlan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kinshasa et vous participez aux journées scientifiques sur le statut des Roms, l'état des lieux et perspectives pour la justice congolaise. En peu de mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises?
Alors, simplement pour dire qu'il s'agit d'un petit peu faire le bilan du travail de la CPI depuis 10 ans, en particulier en RDC, de faire le bilan des succès de la Cour, de ce que la Cour a pu apporter aux populations des états dans lesquels elle intervient, aux populations congolaises par exemple, discuter des défis qu'il reste à relever pour la Cour pénale internationale, et puis essayer de tracer un petit peu un portrait de ces 10 années à travers les différents aspects du travail de la Cour, que ce soit le travail d'enquête, le travail de poursuite, les procédures judiciaires elles-mêmes, mais également la question de la complémentarité, de la relation entre la Cour et les autorités judiciaires nationales, la question des victimes évidemment, et puis la question plus largement de l'impact du travail de la Cour sur la situation dans le pays et dans la région, par exemple à travers la question du rapport entre la justice et la paix.
Il y a 10 ans, la Cour pénale internationale ouvrait ses portes, les statistiques font état de 22 mandats d'arrêt délivrés. Ces affaires portées devant elle, un seul verdict prononcé, celui des Congolais Thomas Lubanga. Êtes-vous satisfait de ces bilans par rapport à la mission de la CPI de lutter contre l'impunité dans le monde?
Alors, je crois qu'on ne peut jamais être satisfait, étant donné la mission, effectivement, de la CPI, son objectif de répondre aux attentes des victimes et de mettre fin à l'impunité. C'est un combat, si je puis dire, qui dure et qu'on aimerait voir finir plus tôt. On aimerait voir l'impunité disparaître pour les crimes les plus graves de la compétence de la Cour. Donc, on ne peut pas être complètement satisfait. Ceci dit, depuis 10 ans, la Cour a fait beaucoup. Je crois qu'en 10 ans, beaucoup a été accompli, en RDC en particulier, mais ailleurs dans le monde. Nous avons 7 enquêtes en cours aujourd'hui dans 7 États différents. Nous avons 8 États qui sont sous examen préliminaire, donc une activité qui s'est énormément déployée dans ces 10 dernières années. Nous avons eu un premier verdict. Nous avons aujourd'hui un deuxième procès qui vient de se terminer. Nous attendons la décision des juges dans l'affaire Katanga Ngudjolo. Nous avons le procès relatif à M. Jean-Pierre Bemba qui est en cours. Nous attendons à la fixation d'audience dans les 2 affaires concernant le Kenya. Nous attendons la suite de la procédure dans l'affaire relative à M. Laurent Gbagbo. Nous avons des audiences qui vont également être fixées pour un procès concernant 2 personnes qui ont été accusées dans le cadre de notre enquête en Darfour. Donc énormément de progrès ont été accomplis. Il reste encore beaucoup à faire, mais en très peu de temps, finalement, au regard du temps de la justice habituelle, la Cour a pu commencer à apporter des réponses et nous l'espérons apporter surtout une réponse aux demandes des victimes et des personnes en souffrance.
Pascal Turlan, que répondrez-vous à ceux qui pensent que la CPI est politisée avec des procès ciblés et qu'apparemment elle a été créée pour ne juger que les Africains?
Je répondrai que cela est tout à fait faux. La Cour travaille pour les victimes, quelles qu'elles soient. Je crois qu'il faut prendre votre remarque dans l'autre sens. Que nous dirions-nous si la Cour avait dit « Ah non, nous ne nous occuperons pas des victimes africaines, nous avons déjà assez de victimes ». Lorsque dans une situation donnée, des crimes sont commis, qu'il n'y a pas nécessairement les moyens au regard de l'état du système judiciaire national de répondre aux attentes des victimes au plan national, alors ces États font appel à la Cour. Et parce que les victimes ont droit à la justice où qu'elles se trouvent. Et ça n'est pas parce que les victimes se trouvent en Afrique qu'elles ont moins droit à la justice que les autres. Sinon, c'est là qu'il faut prendre le problème.
Mais comment appréciez-vous la collaboration entre la justice congolaise et votre institution?
La coopération entre les autorités congolaises en général et la Cour a été excellente. Nous avons ouvert l'enquête, comme vous le savez, dès 2004. Nous sommes aujourd'hui en 2012. Il y a 3 personnes qui ont été amenées devant la Cour en relation avec la situation au RDC. M. Jean-Pierre Bemba, qui a été arrêté en relation avec des crimes commis en Centrafrique, est un ressortissant congolais. Il y a des limites, effectivement. Nous avons demandé depuis longtemps l'arrestation de M. Bosco Ntaganda. Ça n'a pas été possible à certains moments dans le passé pour des raisons pratiques, logistiques, à d'autres moments pour des raisons qui avaient à voir avec la situation politique, la situation militaire, la situation de tension dans l'Est. Nous espérons qu'il sera arrêté le plus rapidement possible. Nous demandons aux autorités congolaises de tout faire pour faciliter son arrestation. Nous sommes conscients des difficultés de cette arrestation dans la zone et dans la situation actuelle dans les Kivus, mais nous pensons qu'il est important que cette coopération qui a été à bien des égards exemplaire continue et que, j'allais dire, l'arbre Bosco Ntaganda ne cache pas la forêt des succès et de l'importance du rôle de la Cour en République démocratique du Congo.
Mais à part les cas de Bosco Ntaganda, il y a aussi Joseph Kony, il y a les présidents El Béchir, les fils Kadhafi et tout ça, c'est un peu difficile pour la CPI.
Alors effectivement, une des limites que l'on peut constater de la Cour aujourd'hui, c'est la difficulté à obtenir l'arrestation des personnes qui sont soumises à des mandats d'arrêt émis par la Cour. Je crois que cette limite n'est pas à proprement parler à mettre au débit de la Cour pénale internationale, mais plutôt à mettre au débit de la compréhension et de l'intégration de ce qu'est la Cour par les États eux-mêmes. Comme vous le savez, les arrestations sont de la responsabilité des États. La Cour n'a pas la capacité, n'a pas le mandat juridique et n'a pas la capacité d'arrêter des individus sur le territoire des États souverains. Cette opération appartient appartient aux États eux-mêmes. Donc.
Dernière question, on parle beaucoup de l'universalité du statut des Roms. Peut-on vraiment parler de cette universalité lorsque des pays où se commettent des graves violations des droits de l'homme, comme le Rwanda, le Soudan, ces pays refusent d'adhérer à ces statuts?
L'universalité est un objectif, un idéal vers lequel la Cour doit tendre. Lorsqu'elle a été créée en 1998, je crois que personne ne pensait qu'elle entrerait en fonction 4 ans plus tard, dès 2002. Les gens ne pensaient pas qu'on obtiendrait le seuil de 60 ratifications du statut de Rome aussi rapidement. Depuis 2002, on a vu 60 nouvelles ratifications, 61, on a doublé le nombre d'États partis au statut de Rome. Donc on voit que le consensus autour de la nécessité de poursuivre ces crimes dits internationaux grandit et que la plupart des États se rendent compte aujourd'hui qu'on ne peut pas faire l'économie d'amener la justice aux populations dans des cas de crimes aussi graves et aussi massifs. Alors évidemment, tous les États ne sont pas encore partis au statut de Rome, mais l'existence de la Cour, son fonctionnement, les résultats qu'elle a eus jusqu'à présent ont amené un certain nombre d'États à la rejoindre, et nous espérons qu'il continuera à en être ainsi, et ont amené également des États qui ne sont pas partis aujourd'hui à la Cour à coopérer malgré tout avec la Cour et à avancer sur la route d'une justice et d'une lutte contre l'impunité pour toutes les victimes de ces crimes les plus graves.
Pascal Tirlin, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous pour l'invitation.